Shalom Vracha, Shavua Tov le Koulam, ve Boker Tov. Boker Tov, Shavua Tov, nous revenons dans notre étude du dimanche matin, notre étude historique, notre rétrospective sur l'histoire du Ham Israël et plus particulièrement, eh bien, nous étudions en ce moment l'histoire du second temple, Troufat Beit Sheni. Et la semaine dernière, eh bien, ça y est, les Romains étaient rentrés complètement dans le pays, ils avaient pris possession complètement du pays et on avait dit l'ambiance romaine se fait de plus en plus pesante. Les Netzivim, les procurateurs de Judée, sont de plus en plus violents, de plus en plus irrespectueux du judaïsme et des juifs. Et donc, eh bien, on va dire que la pression monte, monte, monte. Quand on regardera le procurateur qui va être le premier à commencer à mettre un petit peu le feu aux poudres, eh bien, on retrouvera ce nom qu'on connaît, le nom de Ponce Pilate, Pontius Pilatus. Alors, il est connu évidemment pour être le gouverneur, le procurateur de Judée à l'époque de la crucifixion de notre ami Jésus, mais il va être aussi le premier à, eh bien, tout simplement amener ses dgalim, c'est-à-dire ses symboles de Avodah Zarah, d'idolâtrie, à l'intérieur de la ville de Jérusalem. C'est-à-dire que cette fois, on rentre complètement avec des gros sabots. Et on vient dire, c'est chez moi ici, je fais ce que je veux. Les Juifs, à ce moment-là, commencent à sonner une sonnette d'alarme. Ils disent, non, c'est pas possible. Et il y a les premières requêtes qui sont envoyées à Rome. Le seul problème, c'est que César, à ce moment-là, c'est Gaius Caligula. Et autant te dire qu'il en a absolument, mais alors, rien à faire. Il fait, en réponse aux demandes des Juifs, il va faire construire une statue de lui dans la place centrale de Jérusalem. C'est-à-dire, histoire de dire, non les gars, vous n'avez pas compris, c'est moi le patron, je fais ce que je veux. N'oublions pas qu'à ce moment-là, nous sommes donc, je reviens toutes deux secondes dans l'histoire, avant le début de la Grande Révolte, puisque aujourd'hui nous allons parler de la Grande Révolte, eh bien, nous sommes entre les années entre les années 37 et 41, c'est l'empereur Caligula. Il faut bien comprendre que lorsque, à ce moment-là, eh bien, on voit que César ne répond pas favorablement à notre demande, eh bien, on va aller se tourner vers les Grecs de la région, c'est-à-dire les Grecs du bassin méditerranéen, d'Alexandrie particulièrement, en leur disant, écoutez, vous avez peut-être la possibilité de parler bien avec les Romains, ils vous écouteront peut-être un peu plus, dites-leur que c'est pas sympa quand même de nous imposer des choses, machin. Bon, c'est les patrons au niveau politique, mais c'est pas sympa d'être antisémite. Sauf que les Grecs, comment te dire, qu'ils n'ont pas des très très bons souvenirs de leur rapport avec les Juifs. Et autant te dire que bah, ça ne va pas du tout bien se passer en l'an 38. Ils vont aller voir les Romains, les Grecs, mais pas pour leur demander de se calmer, mais pour leur demander autre chose. Ils demandent à Rome la possibilité, la permission de s'en prendre à la communauté juive de Alexandrie. Les Grecs d'Alexandrie vont recevoir la permission et vont commettre, en l'an 38 de l'ère chrétienne, vont commettre le premier pogrom de l'histoire. Le premier pogrom de l'histoire, c'est-à-dire une attaque menée contre une communauté avec l'autorisation des autorités. Bon, autant te dire que la situation en Eretz Israël, c'est l'omachou. C'est-à-dire, c'est l'omachou, voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est cette époque-là où, eh bien, on peut faire correspondre avec l'une des choses qui est arrivée le 17 Tammuz, ou Amad Tselem Ba'echal. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'empereur Caligula va faire déplacer sa statue à l'intérieur du Beth Amikdash. Makorepo, la situation au sein du peuple juif est insupportable. D'autant plus que les 20 prochaines années vont être une stagnation et une détérioration lente, mais lorsqu'on va arriver dans les 4 dernières années, c'est-à-dire en l'an 61, 62, 63, 64, eh bien, les derniers procurateurs, qui sont respectivement Albinus et Florus, ils sont complètement, mais alors d'une corruption terrible. Alors, Albinus en 61-64 et Florus en 64-66, ils sont corrompus à la mort et ils vont tout simplement piller le Beth Amikdash. Ils vont piller tout ce qu'il y a à piller, tout ce qui est pillable du Beth Amikdash. Bon, à ce moment-là, on n'en peut plus. Les Romains, eux, sont dans leur idée. C'est-à-dire que les Romains, ils sont fidèles à eux-mêmes. Eux, ils pensent qu'ils ont ce qu'on appelle la romanitas, c'est-à-dire ils ont cette foi que c'est les dieux qui leur ont donné à eux le droit de dominer le monde entier. Ça peut plus durer. Ça peut plus durer. La situation doit évoluer. Évidemment, la situation va commencer à être des accrochages. Des accrochages terribles, d'abord entre les Juifs et eh bien, les non-Romains, pas juifs de la région. C'est qui les non-Romains, pas juifs de la région? Nous avons les Coutim, les Chamronim, les peuples qui sont autour d'Israël et qui sont très heureux de voir que les Romains explosent les Juifs parce qu'ils ne les ont jamais vraiment appréciés. C'est à ce moment-là que va se lever dans le peuple juif une nouvelle catégorie. Alors, on en avait parlé lorsqu'on a évoqué les différentes castes du peuple juif. Les Canaïmes voient le jour. En fait, ils commencent à voir le jour déjà dans le début des années 40. Et donc, les Canaïmes, ce sont ce qu'on appelle en latin les Zélotes, les Zélotes. Mais c'est quoi ces Canaïmes? Eh bien, ces Canaïmes, à la base, étaient, comme on l'avait dit, des Prouchim, mais ils décident que c'est terminé. On prépare la lutte armée contre les Romains. Ils vont commencer à se mettre en place d'abord dans la Galilée. Dans la Galilée, et Yosef ben Matityahu, quand il parle d'eux, il est terriblement critiques par rapport à eux. Ils les appellent des listim, des brigands. Et ce qui est très, très symbolique chez eux, c'est le nombre incalculable de dirigeants. C'est-à-dire en 2 secondes, tous les 2 jours, il y a un nouveau chef des Canaïm qui se pointe et qui dit « Je suis plus canaille que les autres. » Autant te dire qu'il y a pas mal de sang versé au sein même des Canaïm entre eux-mêmes. Va naître à ce moment-là une nouvelle faction à l'intérieur des Canaïm qui s'appelle les Sicarim. Les Sicarim du nom du Sicaire. Sicaire, c'est une grosse dague qu'on appelle la pidion. C'est une dague arrondie qui permet de trancher les gorges de manière extraordinaire. Le commandant des Sicarim s'appelle Elazar Ben Yair, mais ça, on en reparlera. Bekitsour, autant vous dire que pour l'instant, c'est l'anarchie la plus totale. Et il y a des gens qui veulent se battre, il y a des gens qui n'aiment pas les Romains mais qui ne veulent pas se battre, il y a des gens qui aiment les Romains. Kitsour, Balagan. Comment les choses vont-elles exploser? Quel est l'événement qui va, eh bien, lancer le début de la guerre contre les Romains? Eh bien là, il faut mettre en avant 2 événements. 2 événements, et on ne sait pas vraiment lequel est le premier qui va véritablement lancer le Mered Hachmonaïm. Les 2 sont mentionnés dans Flavius Josèphe. Les 2 semblent être un point de départ. Il semblerait qu'ils soient passés plus ou moins en même temps. N'oubliez pas qu'il n'y a pas Twitter, il n'y a pas Insta, il n'y a pas Facebook à l'époque, donc l'information va pas aussi vite qu'aujourd'hui. Il semblerait que les 2 soient passés plus ou moins au même moment, à peut-être quelques semaines d'intervalle. On est en l'an 66, pour être exact, au printemps de l'année 66. Il y a 2 événements. Le premier se passe à Césarée. À Césarée, c'est, comment te dire, c'est le quartier général des Romains. C'est le quartier général des Romains, c'est là qu'il y a les palais des procurateurs, c'est là qu'il y a une grosse garnison. Mais il y a aussi là-bas, à Césarée, une communauté juive depuis très très longtemps. Et donc, eh bien, à Césarée, au printemps 1900, j'allais dire, au printemps 66, eh bien, il va y avoir un événement. Il va y avoir une rixe entre les Juifs de Césarée à l'intérieur de leur synagogue, la synagogue de Césarée, face à des Romains qui les accusent de porter atteinte au temple en face, au temple de Jupiter en face de la synagogue. Les Juifs disent, mais pas du tout, on vous laisse tranquille, juste laissez-nous tranquille, machin. Et on va sortir les Juifs de la synagogue en leur interdisant de prier. Et cet événement va évidemment se terminer dans le sang et, semble-t-il, d'après Flavius Josèphe, est un événement qui met les feux aux poudres. L'événement de Césarée. Mais il y a un autre événement. Il y a un autre événement qui se passe à quelques dizaines de kilomètres de là, dans le village de Beth-Horon. Dans le village de Beth-Horon, eh bien, à côté de ce village, il y a une garnison romaine. Et un camp romain. La nuit, une nuit de printemps, eh bien, il y a des voleurs qui ont réussi à pénétrer à l'intérieur du camp romain et ont pillé l'intendance. Le lendemain, les Romains se rendent compte de ce qui s'est passé. Ils viennent directement dans le village de Beth-Horon, étant persuadés que les voleurs viennent de là-bas. Et donc, il rassemble tout le monde dans la place du village en disant « Donnez-nous les voleurs !» Et on n'a pas de voleurs chez nous, on ne sait pas de quoi vous parlez, qui a fait ça ? Les Romains n'acceptent absolument pas et vont commencer à tout simplement chercher dans tout le village. Évidemment, on cherche, mais on n'est pas en mode « on prend pas de gants ». Il va y avoir des gens qui vont être tués pendant les recherches, des femmes, des enfants qui vont être massacrés. Et à un moment donné, les Romains ne trouvent pas ce qu'ils veulent, mais ils sont très énervés. Il y a un légionnaire qui va prendre le Sefer Torah de la ville, le dérouler devant tout le monde dans la place de la ville et va le brûler. Cet événement-là, Flavius Joseph le décrit comme étant un événement terrible. Et oui, terrible parce que ce légionnaire romain, lorsqu'il fait ça, va créer une réaction en chaîne chez les Juifs. Nous dit Flavius Joseph qu'à ce moment-là, les Béné Israël, en Eretz Israël, ont été tellement choqués d'apprendre cet événement-là que c'était pour eux comme si on brûlait non pas seulement un Sefer Torah, mais une partie de la terre d'Israël tout entière. Et donc, ils décident de sortir en révolte. Il semblerait que cet événement-là soit celui qui est mentionné dans la Mishnah, encore une fois, pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz. C'est un problème, c'est un petit peu problématique parce que d'après Flavius Joseph, ça se passe au printemps. Là, on parle de Tammuz, mais bon, c'est pas très loin non plus. Et ça correspondrait à ce qui est mentionné quand on dit que Saraf apostamos et a Torah, que ce apostamos a brûlé un Sefer Torah. Encore une fois, il ne s'agit pas de Stam, un bonhomme. Postamus est un titre qui était donné à un légionnaire romain, fils de légionnaire, qui était né après la mort de son père. Postamus, après la mort. En d'autres termes, il pourrait sembler s'agir de cet événement-là qui finalement va mettre le feu aux poudres. Et à ce moment-là, les Juifs disent « C'est tout, terminé, stop !» Yalla, on part en guerre. On part en guerre et c'est où ? On est dans l'année 66 et les combats commencent. Les combats commencent. Alors au début, ils ne sont pas très organisés, mais très vite, on se rend compte que si on veut pouvoir s'organiser, ça va être fait dans le nord. Jérusalem, Césarée, cet axe-là est trop bien protégé, mais les cités du nord, les villes du nord et particulièrement du Golan sont beaucoup moins protégées, beaucoup moins, on va dire, avec une présence beaucoup moindre des Romains. Et donc, c'est là-bas qu'on va s'organiser. Est envoyé à ce moment-là, à l'automne, sera à l'été 66, est envoyé un homme pour réunir les Juifs du Nord et les organiser. Ça va être le moment également où, ça correspond exactement avec ce qui est marqué dans la Mishnah, que Boutal Korban Atamid, les Kohanim, avec l'histoire mentionnée dans le Talmud, dans le traité de Gittin, l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa, finalement, les Juifs vont arrêter le Korban, alors pas seulement le Tamid que nous, on faisait pour nous, mais il y avait un sacrifice qui était fait de manière quotidienne pour César. On arrête. On arrête le Korban pour César. C'est l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa qui est mentionnée dans le Talmud. À ce moment-là, Rabotai, les Romains ne vont pas laisser passer. Et on amène les légions en pote de combat pour calmer un petit peu ça. Parce que des foyers de révolte commencent à éclore, on va calmer ça tout de suite. Évidemment, les Romains pensent que ça va être calmé en quelques jours. Ça, c'est rien du tout. Et finalement, les Juifs vont commencer à s'organiser. Eh oui, à ce moment-là, ce n'est plus simplement une petite révolte. Florus, le dirigeant romain, à cet endroit-là, le dernier procurateur de Judée comprend, lorsque les Juifs de Jérusalem s'organisent pour reprendre la ville, dégager les Romains et surtout conquérir la forteresse Antonia, qui était censée être la forteresse de garnison, mais qui était vide à ce moment-là, lorsque les Canaïmes de Jérusalem réussissent à s'emparer non seulement de Jérusalem, non seulement de la Antonia, mais en plus au sud des différentes forteresses du désert de Judée, qui n'était pas vraiment gardé par les Romains, parce qu'on ne pensait pas qu'on était en temps de guerre, lorsque les Juifs s'installent à Massada, à Hérodion et à Caphrion, Florus comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'une petite altercation, mais les Juifs sont vraiment en train d'organiser une révolte armée contre les Romains. Il en réfère à Rome, et directement, on fait venir de Rome, l'un des généraux les plus émérites, à savoir Vespasien, Aspasianus. Il arrive avec son fils Titus pour mater la révolte. Et à ce moment-là, eh bien, c'est à l'automne 66 que les Romains vont commencer véritablement à, eh bien, à rentrer dans le jeu. Très, très rapidement, ils vont reprendre Jérusalem, mais tout le monde comprend qu'à ce moment-là, eh bien, les vrais combats vont commencer à s'organiser vers le nord. Pour monter, eh bien, tout d'abord, on va calmer les gens de la région. Donc, après avoir repris Jérusalem, eh bien, ils vont faire un combat à Bethoron. Vous savez, là où tout a commencé. Mais sauf que là, eh bien, les combats de Cassius Gallus va perdre le tribun. Cassius Gallus va perdre son combat à Bethoron et ça va donner un coup de fouet aux Juifs parce qu'ils se rappellent de Yehuda Maccabi qui avait gagné le combat de Bethoron. Et donc, ils se disent, bah, comme les Grecs, on a réussi à les battre, on va battre les Romains. À ce moment-là, on s'organise. On s'organise de manière beaucoup plus officielle et tout va commencer à se centraliser dans le Nord. Dans le Nord, on envoie en l'an 67 un homme qui connaît très bien Rome. Cet homme, il avait été envoyé pendant des années à Rome pour apprendre la culture romaine, savoir qui est son ennemi. Il est Cohen, il travaille au Beth Amikdash. Dans sa jeunesse, à 15 ans, c'était lui qui était le Cohen chargé d'enseigner les lois de Touma ou Tahara à tous les autres Kohanim. Donc, autant te dire que c'était une pointure. Il s'appelle Yosef ben Matityahu. Il n'est pas encore Flavius Joseph. Yosef ben Matityahu est envoyé comme général en chef des armées du nord d'Israël et il va fortifier toutes les villes du nord. On parle de Gamla, on parle de Yotvat, on parle de toutes les villes du nord vont être fortifiées par Flavius Joseph et préparées au combat. Lorsque Vespasien monte dans le nord, lui aussi pense qu'il va mater la révolte. Et l'un des grands combats va avoir lieu à Gamla. Gamla dans le Golan, mais Flavius Joseph est prêt. Gamla est une ville qui est en pente. Et Flavius Joseph connaît son terrain là où Vespasien ne le connaît pas. Et il pense qu'il va pouvoir tout simplement rentrer dans la ville et attaquer. Et il ne se rend pas compte que les Juifs lui ont tendu un piège énorme. Ils sont postés non pas dans les rues, mais ils sont postés sur les toits, qui sont à chaque fois en terrasse comme ça. Et donc, ils peuvent leur fondre dessus et ils vont emporter une victoire énorme. Vespasien est obligé de reculer, de prendre la retraite et il va devoir se réorganiser. Finalement, la réorganisation va se faire et les Romains vont venir avec une légion et demie pour s'occuper des villages du Nord et du Golan. Et ben voilà. Et ben voilà, une fois que les Romains ont commencé à comprendre qu'il va s'agir d'une véritable guerre, eh bien, ils marchent comme une légion romaine, comme ils savent le faire. Et là, c'est de ville en ville que bah, les Juifs tombent, tout simplement. Flavius Joseph, à chaque fois qu'une ville tombe, il part à une autre ville pour essayer que là-bas réorganiser les combats. Et finalement, eh bien, les derniers combats du Nord vont se situer dans la ville de Yotfat. Yotfat, nous sommes à la fin de l'été 67. La ville de Yotfat, dans le Galil Merkazi, dans le centre de la Galilée, eh bien, ça va être le dernier combat. C'est une ville que Yosef ben Matityahu va fortifier, mais les Romains vont l'assiéger, tout simplement. Un grand classique. D'habitude, on ne fait pas ça pour des petits villages et pour des petites villes. On garde ça pour Jérusalem. Mais là, Yotfat, eh bien, on va l'assiéger. C'est un siège énorme. Un siège qui va tout simplement continuer dans le temps, à tel point que le siège va durer 47 jours. 47 jours, l'eau, la nourriture n'existe plus. Et à ce moment-là, Yosef et les derniers combattants, une fois que la ville tombe au bout de 47 jours, les Romains fondent dans la ville et massacrent tout ce qui bouge, les combattants de la ville qui n'ont pas encore été tués vont se réfugier dans des grottes. Ils sont 37 et ils sont avec leur commandant Yosef ben Matityahu. Ils se réfugient dans les grottes et c'est dans les grottes qu'on va entendre eh bien, les bruits des épées massacrer tout ce qui est à la surface. Au bout de quelques jours, eh bien, les hommes de Yosef se disent « ça sert à rien, on va perdre ». Il est hors de question qu'on tombe entre les mains des Romains, pour être exposés comme des bêtes de foire, pour en devenir des esclaves. Et donc, ils décident, à ce moment-là, eh bien, de tirer au sort l'un d'entre eux qui va exécuter les autres. Oui, non, je ne parle pas de Massada, je parle de Yotfat. Il va se passer la même chose à Massada plus tard, mais on est à Yotfat. Yosef ben Matityahu n'est pas dans le tirage au sort parce qu'il est le commandant. Donc il y a un homme qui est tiré au sort, il va tuer les autres. Il ne reste donc plus que deux hommes, Yosef et cet homme dont on ne connaît pas le nom. Ils décident à ce moment-là tous les deux de sortir. C'est à cause de cette décision que jusqu'à aujourd'hui, le procès de Flavius Joseph est toujours réitéré dans le Misrad Hachinuch israélien. Est-ce qu'il aurait dû se tuer lui aussi? Est-ce qu'il aurait dû sortir et se battre avec ses hommes? Mais à partir du moment où tous les autres se sont entretués pour ne pas tomber entre les mains des Romains, pourquoi est-ce que lui, il sort entre les mains des Romains? Eh bien, tout simplement, Yosef ben Matityahu choisit d'utiliser ses qualités pour le peuple juif. Il ne va pas gagner la guerre, ça y est, il l'a perdu. Mais restant en vie, il va tout simplement pouvoir écrire. Et il deviendra l'historien du peuple juif. Grâce à lui, nous connaissons toute l'histoire de cette période. Et donc, Yosef ben Matityahu sort. L'autre aussi sort. Mais l'autre n'est pas important pour les Romains, donc il se fait massacrer sur le moment. Et Yosef est emmené devant Vespasien. À ce moment-là, eh bien, on ne lui laisse pas vraiment le choix, il devient esclave de Vespasien. Il prend donc le nom de la maison de Vespasien, de Aspasianus, c'est le nom Flavius, et donc il devient de Yosef ben Matityahu, il devient Yosefus Flavius. Et à ce moment-là, au départ, avant d'être envoyé à Rome avec les prisonniers, eh bien, il sert de bête de foire. En fait, là où l'armée romaine passe, ils amènent Yosef ben Matityahu, qui était connu comme étant le grand général du Nord, et il le trimballe d'endroit en endroit en disant, regardez, même lui, il est tombé, rendez-vous. Et ça va marcher. Il y a plein de villes qui vont se rendre en voyant Yosef ben Matityahu enchaîné. Finalement, il est lui envoyé à Rome, il va commencer à écrire la guerre des Juifs contre les Romains, et à la fin de l'année 67, eh bien, les combats commencent, la Galilée est redevenue romaine, les combats reviennent et se recentrent vers Jérusalem, car tous les Juifs se sont rassemblés vers cet endroit-là, ils tiennent bon à Jérusalem, ils ont réussi à remettre dehors les Romains, et donc on se barricade à Jérusalem. Il y a, à ce moment-là, encore un petit peu de résistance dans le Nord. Le commandant des forces juives du Nord s'appelle Yohanan Migush Halav. Il y a également, dans les monts de Judée, l'homme fort, il s'appelle Shimon Bar Giora. Il est celui qui va mener le combat de Jérusalem. Et il y a déjà à ce moment-là, dans les forteresses de Midbar Yehuda et plus tard à Masada, Elazar ben Yair. Les amis, au final, eh bien, la situation à Rome part en cacahuète. Eh oui, Néron meurt, le César Néron meurt. Et à ce moment-là, entre les années 68 et 69, en un an, vont se succéder quatre Césars. N'importe quoi à Rome. C'est justement parce que c'est n'importe quoi à Rome, eh bien, que pendant cette période-là, la révolte contre les Romains marche, puisque les Romains n'ont pas vraiment de directive, et donc ils sont tellement occupés à savoir ce qui se passe à Rome, qu'ils ne sont pas vraiment impliqués dans les combats en Israël. Mais finalement, en l'an 69, eh bien, il est décidé que Vespasien deviendra César. Lorsque Vespasien devient César, il rentre à Rome, calmer tout le monde, il va mettre en place sa royauté, mais il donne à son fils Titus le rôle de ne s'occuper de rien d'autre que de tout simplement terminer les Juifs et la Judée. À ce moment-là, on fait venir quatre légions à Jérusalem, la 5, la 10 qui était là, la 12, la 15. Chaque légion, c'est à peu près 15 000 hommes, si on compte les combattants et ceux qui s'occupent de tout le reste, de la logistique et tout ça. Ça devient autre chose. Ah, ça devient autre chose. Et là, eh bien, nous sommes dans l'année 70. Et à ce moment-là, alors, évidemment, je ne rentre pas ici dans la marloquette entre Chazal et l'histoire. Est-ce que c'est l'an 68 ou est-ce que c'est l'an 70? L'Okokachachov ici, dans notre histoire à nous. Le 10 du mois de Tevet commence le siège des Romains, comme avait commencé le siège des Babyloniens, c'est ce qui est mentionné dans le Seder Olam Rabba. Yosef ben Matityahu lui dira que le siège a commencé à Pessah de l'année 70. L'homme est chané, quoi qu'il en soit, eh bien vous connaissez la suite du film. Le 17 Tammuz, les Romains pénètrent dans la ville et vont commencer les combats à l'intérieur de la ville. Le 9 Av, c'est le Beth Amikdash qui va brûler. si on peut lire entre les lignes de Flavius Josèphe qu'à la base, Titus ne veut pas détruire le Beth Amikdash, tous les autres historiens s'accordent pour dire qu'il est évident qu'on va détruire le Beth Amikdash. Il est évident qu'on va détruire le Beth Amikdash parce que c'est ce qui va être le symbole qui va porter un coup terrible aux Juifs qui n'arriveront plus à se relever après. D'ailleurs, c'est plus ou moins ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, le Midrash nous raconte que qu'est-ce qui se passe ? Que Titus ne veut pas détruire le Beth Amikdash et qu'à ce moment-là, eh bien, c'est pas lui, il y a quelqu'un, enfin, c'est pas le Midrash, etc. Yosef Ben Pinhas dit, il a pas donné l'ordre, mais il y a un visionnaire qui a, sous le stress, il a jeté une torche enflammée et ça s'est mis à tout embraser et tout ça. D'après le Midrash, c'est Titus qui a donné l'ordre à ses généraux de détruire les quatre murs porteurs du Beth Amikdash, les fameux Kotel, et l'un d'entre eux nous dira, le Midrash, n'a pas voulu, car il a été pris de stupeur devant le Kotel, il ne l'a pas détruit. Et lorsque Titus lui demande « Pourquoi tu n'as pas répondu à mes ordres ?» Elle dit « Mais écoute, au contraire, si on détruit tout, les gens ne verront pas comment tu as été grand. Si je laisse un des quatre murs, là, eh bien, tout le monde va voir que c'était des murs extrêmement imposants. Et donc, ils vont comprendre que des murs comme ça, tu as réussi à détruire les autres, c'est incroyable. Et ils vont voir ta grandeur. » Le Midrash dit qu'à ce moment-là, Titus a dit ouais, « c'est très bien, c'est une très bonne idée, mais tu sais quoi ? Tu as quand même désobéi aux ordres. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas monter sur ce mur-là que tu n'as pas détruit et tu vas sauter. Si les dieux jugent que tu dois vivre, eh ben, tu vivras et moi, je ne te ferai rien. S'ils jugent que tu meurs, eh ben, tu meurs. » Et le Midrash dit que cet homme est mort, mais que grâce à cela, le Kotel est toujours debout. Bon, c'est un petit peu compliqué parce que on parle pas du Kotel que nous, on connaît. Évidemment. Et oui, le Kotel que nous, on connaît, les quatre, ils existent aujourd'hui. C'est juste que le seul qu'on peut accéder facilement, c'est le Kotel occidental. Mais le Kotel sud, tu peux y aller quand tu vas dans le centre Davidson, il existe encore. Et le Kotel est, l'Ira et nord, existe également. Seulement aujourd'hui, ce sont des maisons et donc c'est compliqué de pouvoir les voir. Mais les quatre murs existent. Ils ont été évidemment amoindris et un petit peu détruits, mais ils sont toujours là. Donc est-ce que là-bas, le Midrash nous parle d'une petite destruction, mais pas complète ? Voilà. Lorsque, par contre, le Midrash va nous dire que la Shekhina, la présence divine, n'a pas bougé du Kotel à Maharavi, c'est tout à fait vrai, mais rien à voir avec notre Kotel à Maharavi. Et là, c'est le Kotel à Maharavi du Beth Amikdash. Comme vous le savez, je vous renvoie au cours qu'on avait fait sur le Beth Amikdash lui-même. Il y a une série de 6 cours, je crois, sur le Beth Amikdash. Vous pouvez retrouver dans ma chaîne YouTube. Eh bien, là-bas, on explique bien que le Kotel à Maharavi, quand on fait référence dans le Midrash, c'est le Kotel du Beth Amikdash qui lui a été complètement détruit. Mais comme nous dit le Rambam, c'est pas parce qu'ils ont été détruits que la présence divine n'y est plus. Rabotai, finalement, eh bien, les Romains sont extrêmement virulents avec les Juifs, beaucoup plus qu'avec d'autres peuples qui se sont révoltés. Pourquoi ? Eh bien, parce que les Juifs sont les seuls à avoir, pendant la révolte contre les Romains, imprimer une monnaie. On imprime une monnaie, ça veut dire qu'on est indépendant, qu'on est complètement plus soumis à la direction des Romains. Les Geoulat Yerushalayim, les Geoulat Zion, pour la libération de Jérusalem, est fait marquer sur les pièces de monnaie qu'on va retrouver de la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Pas de cinquième année parce que, eh bien, ça sera la fin de la révolte. Finalement, pendant le mois de Elul, eh bien, c'est la fin de la ville qui sera incendiée complètement et au milieu du mois de Elul, de l'an 70, eh bien, c'est terminé. Jérusalem est tombée, le Beth Amikdash est tombé, les dernières poches de résistance sont tombées, toutes sauf une. Il y a encore une poche de résistance qui tient encore et toujours à l'envahisseur romain. Cette poche de résistance, ce jour du tirage de la monnaie, était-il le 33e du Homer ? Pas que je sache. Je crois pas. Mais de toute façon, le 33e jour du Homer par rapport à la révolte contre les Romains, c'est la révolte de Bar Corba et non pas la grande révolte. Donc c'est plus tard. Bekitsour, il résiste encore une poche de résistance face aux Romains. Cette poche de résistance, elle est menée par Elazar Ben Yair qui, voyant la chute de Jérusalem, eh bien, s'est réfugié dans la forteresse de Masada. On a pris complètement possession. Et là-bas, avec les derniers réfugiés qui ont bien voulu le suivre, avec les 900 et quelques personnes qui sont là-bas, va organiser la dernière source de liberté juive en terre de Judée pendant encore quelques années. Mais ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. À bientôt les amis, Shavua Tov.